Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir, dans le dossier du jour, on reçoit quelques membres du collectif Zéro Impunité, qui est donc un projet transmédia mêlant journalisme d'investigation et activisme contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés. Oui, ce soir, haut les cœurs, les auditeurs, il va falloir du courage pour écouter toutes les enquêtes que nos trois journalistes qui sont en plateau ont faites, de la Centrafrique à la Syrie, en passant par les États-Unis. Ce soir, ça va être rude. Vous les avez reconnus, c'est le TIC sur Fréquence Paris Pluriel. Effectivement, on a ressorti nos vieilles playlists anti-Bush et féministes pour parler ce soir du projet Zéro Impunité, qui est donc, comme je disais tout à l'heure, un projet transmédia mêlant journalisme d'investigation et activisme contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés. Donc on a en plateau Leïla, Anne-Laure et Cécile qui ont participé toutes les trois à ce projet à différents, on va dire, niveaux et différents terrains. Donc peut-être Leïla, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce projet?
Alors, comme tu le disais, c'est un projet transmédia qui vise à dénoncer tous les mécanismes d'impunité, donc des États, mais aussi des autres institutions internationales qui ont couvert les exactions de leurs troupes, les exactions en particulier, donc le viol, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel des hommes en armes sur le terrain.
Et il se trouve que toi, avant, tu avais travaillé sur l'armée française, en fait.
Exactement. J'ai publié un livre avec une consoeur qui s'appelle Julia Pasquale, qui s'appelle La guerre invisible sur les violences sexuelles commises à l'intérieur de l'armée française, donc des hommes contre les femmes de l'armée française.
C'était publié aux éditions Les Arènes, si je me souviens.
Exactement.
Bien. Alors, comment s'est créé ce collectif?
Alors, en fait, donc c'est une boîte de production qui s'appelle Aban qui est venue nous chercher, en fait, qui nous a proposé d'enquêter, nous, 11 femmes journalistes, sur 6 enquêtes. Donc la Syrie, la France, les États-Unis, mais aussi la Cour pénale internationale, l'ONU et l'Ukraine. Et on a dit oui, parce que c'est pas tous les jours qu'un projet comme ça se présente. Et on a travaillé tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. On a fait un peu le tour de la planète. On est parti en zone de combat, donc en République centrafricaine, en Ukraine, en Jordanie, en Turquie. Et donc depuis quelques semaines maintenant, les enquêtes sont publiées au compte-gouttes par le site Mediapart.
Et pas que par le site Mediapart, hein, parce que c'est un projet mondial.
Exactement, il y a 12 médias partenaires. Donc c'est traduit en 5 langues, c'est publié par des médias qui sont engagés donc dans le monde arabe, Le Desk, Inkifada, Info Libre en Espagne, L'International et en Italie, Corrective en Allemagne. Je ne vais pas tous les citer en gros, mais en gros, c'est un projet international qui est traduit en 5 langues. Pour nous, c'était très important que les enquêtes partent aussi ailleurs, notamment pour l'enquête sirène dont Cécile vous a parlé. Dans le monde arabe, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir avoir des traductions en arabe. Donc du coup, voilà.
Et puis, vous êtes toutes des femmes. J'imagine que ce n'est pas anodin dans le choix.
Non, c'est un choix dès le départ dans le recrutement. C'est-à-dire que moi qui ai travaillé déjà plusieurs fois sur les violences sexuelles, je me rendais compte que à chaque fois que je faisais entrer un homme dans la pièce, c'est-à-dire un homme caméraman ou un homme photographe, ça a jeté un froid. Et voir les femmes refuser de nous parler, ça crée une distance en fait. Parfois une pudeur, parfois une distance clairement politique. Et donc du coup, je me suis dit, déjà, cette première barrière, je ne veux pas qu'elle existe, donc ça sera des femmes. Et à notre manière de travailler, ça a créé une ambiance très particulière, une bienveillance particulière, un soutien assez incroyable, et on ne regrette pas le choix, quoi.
Alors vous deux, Cécile et Anne-Laure, comment vous êtes rentrées dans ce projet ?
En fait, tout simplement, avec Anne-Laure, on travaille dans les locaux du collectif YouPress. Leïla a été contactée au départ par Aban, donc la boîte de production qui a lancé le projet, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur le sujet des violences sexuelles. Elle a fait beaucoup de reportages aussi en zone de combat. Donc, elle a été contactée pour monter une équipe, en fait, parce qu'elle avait toute cette expérience-là. Et nous, comme on travaillait dans les mêmes bureaux, c'est un peu le genre de sujet qui nous intéresse, sur lesquels on a envie de travailler. On a très vite intégré le projet et l'idée nous a attiré dès le départ, quoi.
Et pour le choix des terrains, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. On avait toutes déjà des idées de sujets. Par exemple, le sujet de Guantanamo, d'Abu Ghraib, c'était quelque chose qui m'intéressait d'avance. Donc ça s'est fait vraiment tout naturellement et voilà, dans les petits locaux du YouPress.
Peut-être juste pour continuer sur le projet, là on parle de journalisme papier, écrit, mais il va y avoir aussi un film, un documentaire. C'est quand même beaucoup plus large comme...
Exactement, c'est un projet un peu pieuvre, un projet gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la publication des 6 enquêtes donc par les 12 médias, l'existence d'une manifestation virtuelle qui va être... Il y a des pétitions qui vont donner lieu à une manifestation virtuelle qui va être projetée sur différents lieux symboliques par des hackers dans le monde entier. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement... C'est un journalisme, évidemment, d'investigation avec le recul nécessaire, mais c'est aussi un projet activiste, féministe. Et par ailleurs, il y a un film d'animation, donc c'est pas un documentaire, c'est un très gros studio de production qui travaille dessus, qui s'appelle Mélusine Production, qu'ont fait Ernest et Célestine notamment, qui ont été plusieurs fois oscarisés, qui travaillent en ce moment même sur ce film d'animation, mais qui va être complètement réel.
Et on peut aussi annoncer qu'il y aura un livre à la rentrée avec les éditions Autrement. Voilà, c'est la première fois qu'on le dit, mais c'est un beau partenariat.
Et ce film d'animation partira de vos enquêtes, en fait ?
Complètement. C'est un film d'animation réel. C'est-à-dire les dialogues sont exactement ceux qu'on a pu avoir avec les personnes interviewées. Les personnes sont plus ou moins reconnaissables, c'est-à-dire celles qui ont fait le choix de ne pas apparaître sur leur trait réel n'apparaîtront pas sur leur trait réel, mais celles qui ont décidé de passer de victime à survivante, on leur donne la possibilité.
Et alors, vous êtes 11 et vous avez fait 6 enquêtes. Et alors, comment vous avez choisi vos terrains ?
Par affinité, en fait. Je pense qu'il y avait, par exemple, Ilioné Schulz qui a travaillé sur l'Ukraine parce qu'elle est allée plusieurs fois là-bas. Et donc, du coup, elle avait envie de travailler sur le sujet. Anne-Laure, comme elle le disait, a longtemps lu des choses sur Abu Ghraib. Donc, elle s'est dit, je vais travailler là-dessus. Finalement, ça s'est fait vraiment parce que c'était des terrains qui nous intéressaient déjà au départ. C'était des sujets qu'on maîtrisait à un niveau différent selon les personnes, mais qu'on maîtrisait déjà un peu à la base. Et ça s'est fait, ça s'est fait complètement naturellement.
Et on a travaillé par binôme. Et pareil, les binômes se sont formés de façon assez naturelle, par affinité de sujet. Et puis les groupes de travail ont très rapidement bien fonctionné. Après, il y a eu quand même des choix à faire, puisque le viol comme arme de guerre, c'est quasiment systématique à chaque fois qu'il y a une guerre. Donc du coup, on aurait pu effectivement choisir d'autres endroits. Notamment, c'est posé la question de traiter des violences sexuelles contre les yézidis par Daesh, etc. Plusieurs questions d'actualité auraient pu aussi gouverner nos choix. Après, ce qui nous a semblé pertinent, il y avait des choix logiques. Enfin, on est une équipe française, il fallait qu'on interroge notre propre pays sur ces exactions. Ça, c'était évident pour nous. La question de Daesh et des violences contre les yézidis avait déjà été très, très traitée, jamais suffisamment, mais quand même déjà pas mal. Et on s'est dit que la question du viol des enfants par le régime, c'était encore un sujet tabou, encore un degré de plus dans l'horreur. Donc, c'était nouveau et on avait un rôle à jouer. Donc il y avait quand même des questions de fond sur les choix.
Et puis vous avez fait du terrain quand même, vous avez été sur place.
Tout à fait.
Bah ouais, hein, tout le monde est parti, partir chercher des témoignages ou des témoignages de victimes ou de bourreaux ou de gens qui avaient pu collaborer à ça ou chacune est partie chercher un peu quoi de camp du monde des histoires.
Et oui, ce soir aux Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel, on parle du projet Zéro Impunity. C'était Against Me qui chantait White People for Peace. C'était une chanson protestataire contre les hommes en armes qui, justement, terrorisaient les terroristes en Irak, puisque à l'époque, c'était à l'époque de George W. Bush. Et c'est tiré, en fait, d'un très bon documentaire qui s'appelle Body of War, donc les corps de la guerre, puisque ce soir, en fait, on reçoit le collectif Zéro Impunity, donc Zéro Impunité, qui a mêlé un travail de journalisme et qui fait aussi de l'activisme contre les impunités et des violences sexuelles dans les conflits armés. Alors, vous avez publié différentes enquêtes qui sont publiées chez Mediapart en France, mais dans d'autres journaux à travers le monde. Vous avez d'ailleurs un site internet qui est superbement bien fait et très joli, avec plein de jolis dessins qui apaisent un peu les propos de vos enquêtes qui sont quand même très durs. Et pour commencer, bah justement, puisque Laïla, t'es en plateau et tu as mené une enquête avec Justine Brabant sur les viols de l'armée française en Centrafrique, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc c'est lors de l'opération Sangari. Alors peut-être pour revenir pour nos auditeurs sur l'objectif de l'opération Sangari, puisque c'était aussi apporter la paix.
Exactement. Alors que,
c'était les White Men for Peace, mais en Afrique.
Alors que l'armée française était intervenue pour s'interposer entre dans les exactions en fait qui étaient commises en Centrafrique, on s'est rendu compte que les troupes françaises avaient elles-mêmes commis des exactions, notamment des violences sexuelles à l'encontre de femmes, mais aussi d'enfants mineurs. Dans les camps de réfugiés, mais aussi dans les différents villages où elle était passée. Donc du coup, ça avait créé un scandale énorme il y a plus d'un an et demi de ça. On est revenu sur cette affaire et on a enquêté donc, pendant plusieurs mois avec Justine Brabant, qui s'est rendue en Centrafrique.
Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le côté enquête en Centrafrique ? Comment elle a pu obtenir des témoignages ? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident. Et dans ce qu'elle raconte, on sent que c'est quand même très tabou.
L'essentiel de l'enquête a été mené en France, c'est-à-dire que quand Justine est partie une dizaine de jours sur place, tous les contacts avaient déjà été établis en France. C'est important pour nous de partir de la France, c'est-à-dire à un moment donné, il nous fallait des sources en France, notamment des militaires français qui avaient été sur place, etc., pour être sûr d'avoir une parole en face, puisque très souvent, on remet en cause la parole des victimes, encore plus quand c'est des victimes africaines. Et en RCA, ça a été criant, c'est-à-dire que tout le discours de l'armée française, c'était de dire « mais vous savez, on leur donne de l'argent pour porter plainte, ils sont prêts à tout, y compris à jeter leurs enfants sous les roues des camions pour pouvoir avoir de l'argent ». C'est ce discours-là qui nous a été renvoyé systématiquement au visage. Et donc pour nous, c'était important de récolter les preuves en France, d'avoir des témoignages directs en France, et ensuite, une fois ces contacts pris, de nous rendre en République centrafricaine.
Les contacts des militaires français, en fait, comment vous avez eu des témoignages de militaires français ici, en France ?
Alors en fait, c'était un travail de longue haleine, essentiellement mené à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'armée française comme de la grande muette, mais on se rend compte que l'armée française...
Vous avez mis sur Facebook des petites annonces militaires violeurs
En général, on disait... ils ont beaucoup de groupes d'anciens. Anciens de l'opération Sangaris, anciens de tel régiment, anciens de... etc. Donc là, on postait des messages où on allait carrément à la pêche. Et ensuite, on proposait aux gens de les rencontrer, évidemment. On ne se limitait pas du tout à cet échange sur Messenger.
Et ça, c'est des groupes ouverts ?
Complètement. En fait, c'est pour ça qu'on a cette vision de quelque chose de fermé, mais... Tous les militaires sont sur Facebook. Enfin, je dis tout, j'en sais rien, mais une grande partie des militaires sont sur Facebook, comme la plupart des individus. Et ils commentent, ils mettent des photos, et vraiment, ils commentent allègrement. Donc, c'est long, parce que c'est fastidieux, mais c'est possible. C'est possible. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a remonté le fil et qu'on a réussi à obtenir ces témoignages de militaires français qui avaient travaillé sur l'opération Sangaris.
Et quand vous avez mis des annonces, les gens ont répondu de manière... c'était foisonnant ou c'était...
Non, ça a été un travail. Il y en a qui répondent assez facilement. D'autres, plus difficilement, et qu'il faut vraiment tirer les vers du nez. Mais en même temps, c'est une opération qui a été très traumatisante pour les militaires français, puisqu'ils ont assisté à des choses terribles, sans parfois pouvoir intervenir eux-mêmes. Donc du coup, ils avaient envie aussi de parler. Ils avaient vraiment envie de parler. Donc du coup, ça nous a un peu aidés.
Et vous vous présentiez d'emblée comme journaliste faisant une enquête sur les violences sexuelles dans les conflits armés et les guerres, ou pas exactement ?
Alors, on se présentait comme journaliste de toute façon, puisque ça, on y est tenu par le code de déontologie. En revanche, on avait un discours plus large. C'est-à-dire qu'on disait, on travaille actuellement sur l'opération Sangaris, etc. Est-ce que vous souhaitez en discuter avec nous ? Et ensuite, une fois qu'on les rencontrait, on allait plus avant. Mais c'est sûr que si on leur demandait direct, vous êtes des violeurs, l'exception près peut-être, où il y a une personne qui a accepté de nous répondre, qui était directement impliquée dans le dossier. C'est-à-dire qu'on avait réussi à avoir le dossier de l'instruction, d'avoir son nom, on l'a retrouvé sur Facebook, et donc on a commencé à échanger avec lui. Donc lui, il savait pourquoi clairement, on s'adresse à lui.
Et alors, qu'est-ce qu'il disait ?
Je pense qu'il n'aurait pas dû répondre au début. Il a dit, mais il a répondu comme ça en disant « Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette situation, c'est la catastrophe, etc. » Et après, il nous a plus répondu. Il a dit trois phrases, quoi.
Parce qu'en fait, les témoignages sont terribles de ces femmes et de ces enfants.
Effectivement, ça a été très difficile et je pense aussi très difficile pour Justine qui a été aux premières loges de cette affaire et encore plus parce qu'on sait quelle route ça prend. Ça prend clairement la route d'un classement sans suite et pour toutes les victimes de Centrafrique. Pour un groupe, on n'est pas encore sûr, mais globalement, ça prend cette distance que grâce à notre enquête, on a pu retrouver cette victime d'atteinte sexuelle qui a eu un bébé. Et donc, du coup, avec potentiellement une preuve matérielle de l'exaction, et pas un seul test ADN n'a été mené par la justice française, et pourtant, son dossier a été classé. Donc, du coup, ça, je pense que c'est d'autant plus difficile pour les journalistes quand on se dit, on va chercher tout ça, on montre que potentiellement, il y a une preuve matérielle, mais derrière, le dossier est classé.
Et ça doit être compliqué aussi, Justine n'est pas là pour en parler, mais de la posture qu'elle avait comme journaliste sur le terrain, puisque j'imagine que les victimes qui voient une journaliste arriver ont sans doute des grandes attentes vis-à-vis d'elle en matière de... Enfin, pour que justice soit faite, justement.
Justine, c'est... Il y a des journalistes qui ont ce discours-là, très souvent sur le terrain, on va vous sauver la vie, etc. Ce n'est pas du tout le cas de Justine.
Je ne dis pas qu'elle l'aurait eu, mais plutôt qu'il y aurait eu une forme d'attente malgré tout.
Je pense que Justine a été chercher notamment cette victime-là dans son village qui se trouve à plusieurs heures de route, etc. Cette victime-là donc, a accepté de répondre à ses questions, etc. Mais je ne sais pas s'il y avait une grande attente. Je pense que ce qui était difficile aussi, c'était la déception effectivement de Justine de se dire on fait ce travail et au final le dossier est quand même classé.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des accords dès 2013 entre le gouvernement français et le gouvernement centrafricain pour protéger les soldats et pour mettre en place une sorte d'impunité.
Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle les accords de coopération judiciaire. Donc, quand des troupes extérieures viennent sur un terrain, elles conviennent avec le gouvernement sur place que si jamais il y a des exactions qui vont se faire, qui se font par leurs propres hommes, ils ne peuvent être jugés qu'en France. Donc, du coup, en gros, pour la justice centrafricaine qui... elle-même mettre son enquête, c'est cuit, quoi. C'est cuit.
Oui, et puis il faut que les victimes portent plainte en France, ce qui est quand même...
Exactement. Ou qu'il y ait une collaboration entre des avocats centrafricains et des avocats français.
Ouais. Ce qui est complètement cuit pour cette situation-là.
Exactement. C'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément la langue. Bref, c'est extrêmement difficile.
Et pourtant, des ONG comme Médecins Sans Frontières avaient aussi obtenu des témoignages. L'ONU, c'était quand même... impliqué et avait aussi dénoncé.
Exactement. Donc MSF a été très proactif sur cette question. Ils ont une clinique qui accueille les victimes de violences sexuelles et ils ont eu donc des jeunes enfants qui s'étaient plaints d'avoir été violés et parfois séquestrés, ligotés par des soldats français. Et ils ont fait le choix de eux-mêmes porter l'affaire devant la justice française, c'est-à-dire qu'ils ont écrit un courrier officiel pour saisir le procureur. Mais jusqu'à présent, ces dossiers-là vont être classés aussi, quoi.
Pour l'instant, pas grand-chose du côté français, quoi.
Exactement. Je pense que ça va tout droit vers le classement sans suite. Après, les avocats qui sont en France se battent. C'est des avocats essentiellement de protection de l'enfance, d'ONG de protection de l'enfance, essayent de faire en sorte que ça ne le soit pas. Mais c'est vraiment très, très loin d'être gagné.
Et vous avez eu des retours après la publication de cette enquête, notamment de la part des militaires que vous aviez interviewés?
Non, absolument aucun retour. On a eu un mail plus ou moins d'intimidation de l'armée française, du ministère de la Défense, juste avant parution. Ce qui est assez surprenant, parce que d'habitude, moi qui ai déjà travaillé sur l'armée française, ils sont plutôt, ils gardent plutôt la distance, etc. Là, ils ont clairement été dans « s'il n'y a aucune tentative de manipulation, on va vous poursuivre, etc. » Donc voilà. Mais non, sinon pas de retour.
Mais ils savent que vous avez publié.
Enfin, oui, bien sûr.
Il y a forcément.
Ah oui, puisqu'on leur a donné la possibilité de se défendre. Et ils n'étaient pas contents.
Et oui, ce soir, on parle de Zéro Impunité, donc un projet d'activisme et de journalisme d'investigation autour des violences sexuelles dans les conflits armés.
Abu Ghraib, Guantanamo, Bagram, Kandahar, Ben Guerri, ils sont tous dans Torture 50.
Salut les mosquitos et bienvenue dans cette nouvelle édition de Torture 50, le top des musiques de torture diffusées à Guantanamo & Co.
Torture 50. Le magazine musical sécuritaire présenté par Marc Tocard avec le soutien d'Ali Burton, de Carlyle et de LRAD Corp.
Et on attaque sans plus attendre avec la meilleure progression de la semaine en Irak. Il prend 6 places d'un coup, il se retrouve 43ème, c'est le fameux Staying Alive des Bee Gees qui a fait craquer 12 terroristes cette semaine.
Torture 50.
Cette semaine, il arrive dans le top de façon fracassante, comme un char venu apporter les lumières de la démocratie dans les rues de Bagdad. Demain, il sera à Tripoli, bientôt à Damas. Il s'agit bien sûr de Metallica, Enter Sandman, 32e cette semaine. Rappelons qu'il y a quelques classements, il était monté à la 7e place lors de la fameuse attaque de Lollapalooza.
Torture through music.
La torture avec de la musique.
C'est Torture 50.
Metallica, 7ème place cette semaine et en exclusivité pour Torture 50, nous avons rencontré James Hetfield, le leader du groupe qui nous livre ses sentiments sans détour.
Torture 50, c'est l'interview.
Alors James, ça fait quoi d'être number one à Fallujah et d'éclater des oreilles des habitants ?
It's not good nor bad.
Ce n'est ni bien ni mal, c'est la liberté d'expression et j'adore ça.
Part of me is proud because they chose Metallica.
Parce qu'ils ont choisi Metallica.
It's strong.
C'est fort.
It's music that's powerful.
Est puissante.
It represents
ça représente
something
quelque chose
that they don't like.
Qu'ils n'aiment pas.
Maybe freedom,
peut-être la liberté,
aggression,
l'agression.
I don't know.
Je ne sais pas.
Freedom of speech.
La liberté d'expression.
Ah, c'est clair, ça c'est direct, James. Nous aussi, on aime le politiquement incorrect.
I think our music.
Je pense que la musique est au-delà de la politique.
La politique me fait chier.
La politique sépare les gens. Je veux arriver par une autre voie.
Et nous aussi, la politique, ça nous saoule. Alors on repart en musique, à Guantanamo plus précisément, avec Eminem et son tube The Real Slim Shady, qui gagne 12 places et se retrouve 6ème.
America will win.
Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
Ça c'est de la bombe, un pur flashbang des familles.
Le baby oui.
A gagné cette semaine dans le grand quiz torture des bombes assourdissantes, des LRAD de poche et des grenades sifflantes d'une puissance de 110 décibels. Wouh ! Alors tout de suite, et sans plus attendre, la question quiz. Quel est l'âge du plus jeune détenu emprisonné à Guantanamo ? 7 ans, 9 ans ou 15 ans ? Vous avez la réponse ? Appelez rapidement au numéro suivant, la compile Zenz Guantanamo numéro 6, offerte aux 50 premiers. Et pour la suite, oulala, du lourd, ça va rappeler des souvenirs au Fatma de Kandahar, un morceau qui a fait valser les voiles à plusieurs occasions et qui a remis le cochon au goût du jour. Voici The March of Pigs par Nine Inch Nails. Eh oui, il n'est toujours pas classé, mais il attend vos votes. Un petit bout de France à partager qui pourrait gagner quelques galons dans de nombreux centres de torture ou dans nos toutes nouvelles prisons. Bring. Allez, cocorico pour le grand Michel.
C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Tout l'amour qu'elles ont dans le corps, la gloire des hommes, le chant des morts.
Ok, voici venu maintenant le moment que vous attendez tous.
Number one.
Qui est le numéro 1 cette semaine ? Et sans surprise, pour la 13e semaine consécutive, c'est la reine de la Casbah qui tond les barbes et retrousse les djellabas dans la banlieue de Kaboul. Elle conserve sa première place sur le podium, Britney Wagbar. On se quitte avec un morceau d'amour que des barbus sanguinaires ne supportent décidément pas. Il a eu raison de 4 terroristes cette semaine dans le centre de torture de Témara au Maroc chez nos camarades de M6. Te marre pas, c'est de l'amour. Salut les mosquitos, à la semaine prochaine.
We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? I love you.
you love me. We're best friends like friends should be, with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
I love you, you love me, c'était le mix torture qui avait été créé en 2012 par Aude, qui faisait partie de l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. C'était un mix réalisé avec toutes les chansons que la CIA avait utilisées pour torturer littéralement, sonorement, ceux qu'ils appelaient les terroristes dans les prisons, que ce soit à Abu Ghraib ou à Guantanamo, puisque ce soir, en fait, on parle de Zéro Impunité, qui est donc un projet transmédia mêlant journalisme et activisme politique contre les violences sexuelles dans les conflits armés. Et alors là, on va aller justement dans les prisons américaines, au moment après le 11 septembre, puisque on a en plateau quelqu'un qui a été rencontré des bourreaux, et oui. Il faut quand même le dire. Et donc toi, tu as été, Anne-Laure, enquêtée auprès justement des dirigeants américains, quoi. Voilà, quand même des gens qui étaient haut placés et qui ont décidé de ces tortures.
C'est ça, donc avec Sophie Tardy-Joubert, mon binôme, on a donc travaillé sur comment la torture sexuelle a été inventée pour casser la résistance des prisonniers de la guerre de la terreur. On s'est donc rendu à Washington et assez surprenamment, on a réussi à rencontrer un avocat, l'avocat général de la CIA à l'époque, John Rizzo, qui donc faisait partie de la poignée de gens à avoir pensé à la torture comme on est ce soir autour d'une table. Voilà.
Et comment il vous a accueilli, en fait? Parce que c'est quand même assez étonnant qu'il ait répondu à une entrevue comme ça.
Alors, c'est une drôle d'histoire. On s'est envoyé plusieurs mails et il nous a très rapidement dit « Venez à Washington », puisque je pense que c'est plus agréable d'en parler de visu. Agréable, je cite. On pourrait aller dans un bar à vin ensemble. Voilà. Donc, nous sommes donc allés dans un bar à vin où il avait ses habitudes.
Et là, pareil, c'était quoi la requête, en fait, que vous aviez formulée dans le mail?
Alors, on a utilisé en fait le prétexte, entre guillemets, de l'utilisation du Guantanamo à la française, qui a été utilisé par plusieurs politiciens de droite, en disant à John Rizzo, voilà, en France, on parle de Guantanamo à la française, vous avez participé à l'élaboration du programme de la torture et de la rétention des prisonniers de guerre à l'époque, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus, puisque John Rizzo a publié un livre où il revient sur cette période-là et où il fait amende honorable, entre guillemets. Donc il nous a tout de suite dit « oui, je veux parler de ça ».
Et alors justement, qu'est-ce qu'il vous a raconté ?
Alors il avait une attitude vraiment très étrange. Il voulait nous raconter qu'il n'avait pas eu le choix, que le 11 septembre était arrivé, que les Américains avaient peur qu'un nouvel attentat arrive et que lui, dans sa position et la position de toute l'administration Bush, ils étaient coincés. Donc il a fallu faire tout ce qui était possible de faire pour obtenir des renseignements pour un attentat imminent s'il devait arriver, quitte à utiliser la torture, ce qu'il ne considérait pas comme la torture, il considère ça comme des techniques d'interrogatoire poussées, je cite.
Parce que le côté technique d'interrogatoire poussée, on la connaît, hein, y a l'école française de la torture.
Bien sûr, c'est la même chose.
Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez classique, hein, on met la tête des gens dans de l'eau, voilà. Mm-hmm. Mais là, ce dont vous parlez, c'est quand même différent.
Alors non, c'est pas très différent. En fait, ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, les premières équipes qui sont parties à Guantanamo ont regardé La Bataille d'Alger, un film qui raconte la guerre d'Algérie, enfin qui raconte les méthodes de renseignement français en guerre d'Algérie.
Un grand classique qui a été utilisé aussi par toutes les dictatures latino-américaines.
C'est ça. Et en plus, ils ont utilisé un ancien programme militaire qui utilisent les techniques de torture nord-coréenne. Et ils ont utilisé donc la bataille d'Alger et ce programme militaire basé sur les techniques de torture nord-coréenne pour élaborer les techniques d'interrogatoire poussé.
Et alors, une des choses, parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il y a cette image de cette femme qui tenait en laisse un prisonnier.
Alors ça, c'est très intéressant. Cette personne s'appelle Lindy England. C'était donc une soldate de premier rang. Elle était vraiment presque elle n'était pas du tout gradée. Et elle a pris pour tout le monde. En fait, dans cette histoire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les femmes ont été systématiquement montrées comme étant les coupables, que ce soit donc Lindy England, dont l'image a touché tout le monde, parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était petite, et qu'elle était barbare et monstrueuse, ou que ce soit la directrice d'Abu Ghraib qui a été... qui a été virée de l'armée, alors même que les hommes sont tous restés.
Donc l'impunité est relative.
L'impunité est complètement relative, et quand on est une femme, c'est très facile d'être la bouc émissaire, oui, dans cette histoire.
Et oui, alors là, on parlait des tortures avec le côté... l'image de ces prisonniers en laisse, mais il n'y a pas que ça, en fait.
Non, en fait, la torture sexuelle, en l'espèce, c'était plusieurs choses. D'abord, une nudité forcée et systématique. Donc, on met des hommes nus, les uns à côté des autres, les uns sur les autres. On leur insère la main dans l'anus pour procéder à des touchers rectaux, mais qui ne sont pas nécessaires. On leur met des suppositoires avant qu'ils prennent l'avion au lieu de leur donner des médicaments par voie orale. On les nourrit ou on les hydrate par voie rectale pour les humilier. On les met nus et on met sur leur corps des images des victimes du 11 septembre, des soutiens-gorge féminins sur la tête, des slips de femmes. La torture sexuelle a pris beaucoup de formes différentes sur ces hommes. Parce qu'ils étaient musulmans.
Et John Rizzo, justement, il avait intellectualisé cette torture ?
Alors, il l'avait intellectualisé à un certain degré, c'est-à-dire qu'il fallait jouer avec les phobies individuelles. Donc, par exemple, si quelqu'un a peur des insectes, on l'enferme dans une boîte avec des insectes. Si quelqu'un a peur des femmes, c'est ce qu'ils imaginaient des hommes musulmans et des hommes du Moyen-Orient, du Yémen en particulier. Alors on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les soldats mettent du sang menstruel sur le visage des prisonniers, c'est-à-dire que des soldats se mettent nus pour créer quelque chose qui n'arrive pas, puisque la torture ne fonctionne pas, comme tout le monde le sait.
Et ces soldats, elles étaient volontaires pour faire ça ?
Alors à un certain degré, déjà il y a un climat qui faisait qu'elles utilisaient ces techniques-là. Et plusieurs rapports militaires montrent que des soldats ont reçu l'ordre, soit par exemple de se badigeonner de parfum et de se frotter contre les détenus, soit de se mettre nu, soit par exemple d'aller de plus en plus loin dans l'horreur et utiliser un faux sang menstruel.
Et John Rizzo, dans son témoignage, il n'avait aucun remords ? Il trouvait ça tout à fait...
Alors encore une fois, lui, il dit... Il y a eu des abus. À Abu Ghraib, par exemple, c'est des brebis galeuses qui ont été beaucoup trop loin. Mais il fallait utiliser les phobies individuelles, il fallait utiliser la nudité forcée, comme utiliser la privation de sommeil ou d'autres techniques, parce qu'il fallait qu'on ait tout de suite des renseignements.
Ce qui est intéressant aussi dans votre enquête que vous avez publiée, c'est que vous avez les témoignages donc, de John Rizzo, qui est l'intellectuel, hein, je vais pas dire ça, mais la personne qui a mis en place ce système de torture.
Qui a permis de le légaliser. Parce qu'il était avocat.
Exactement.
Donc lui, il voyait en quoi ça pouvait rentrer dans le code de la loi, en fait dans la loi américaine. Ça n'est jamais rentré dans la loi, en l'occurrence.
Mais comment ça pouvait rentrer dans la loi ? Ça paraît...
Oui, ça paraît fou. Eh bien, tout simplement parce qu'on pousse les lois de la guerre, c'est-à-dire qu'on considère que la Convention de Genève n'a pas lieu d'être, puisque ce ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des détenus qui n'appartiennent pas à une armée, puisque ce sont des terroristes. Donc les détenus n'avaient pas d'étiquette prisonnier de guerre, donc la Convention de Genève, ils considéraient qu'ils n'avaient pas à la respecter. Les détenus étaient retenus dans des prisons secrètes de la CIA ou hors du territoire américain. Donc ils pensaient qu'en extériorisant ces méthodes-là, ça rendait la loi non applicable, ouais. Voilà, caduque. Et évidemment, après coup, tout cela est devenu faux. Enfin.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, c'est que vous avez rencontré les gens qui ont subi ces tortures. Alors comment vous avez fait pour les rencontrer ?
Alors, nous avons rencontré 5 victimes, des personnes qui sont sorties de Guantanamo puisque Guantanamo ça a ouvert donc il y a 13 ans. Donc ils sont, c'est des personnes qui ont envie de parler en fait, puisque ils sont encore aujourd'hui reconnus coupables d'une certaine façon, c'est-à-dire que avec les différentes attaques qu'il y a eu récemment, ils sont surveillés. Par exemple, un détenu anglais, un ex-détenu anglais qu'on a rencontré, le gouvernement anglais lui est tombé dessus après les attentats de Londres. Et donc, ils ont envie d'expliquer, ils ont envie de montrer qu'ils ont été victimes et à défaut de pouvoir avoir une vraie reconnaissance de victime un jour.
Mais y compris sur la partie violence sexuelle, parce qu'on on se dit qu'il y a, enfin, en général, les victimes éprouvent un sentiment de honte, en fait.
Oui, et là, en particulier, puisque malheureusement, c'est plus difficile pour un homme de se dire victime d'actes de violence sexuelle. Là, ça a été un peu difficile aussi, peut-être parce qu'on est des femmes, mais en tout cas, c'était difficile d'obtenir, d'aller loin dans les descriptions, puisqu'il y avait beaucoup de pudeur. Mais c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été discuté à ce moment-là. On a beaucoup parlé justement des pyramides, on a beaucoup parlé du waterboarding, mais très peu des violences sexuelles. Et c'est pour ça qu'on considérait que c'était important d'en parler dans Zero Impunity.
Et alors, il y a eu aussi une enquête qui a été faite sur Guantanamo. C'est Mark Fallon, c'est ça, qui
oui,
qui
on a rencontré
cette enquête. Et qu'est-ce qui sortait de cette enquête, en fait ?
Alors, on a rencontré plusieurs personnes qui appartenaient soit à la Navy, soit à la NCIS, soit
c'est
à l'armée.
La NCIS.
Alors, la NCIS, c'est un peu une unité d'enquête à l'intérieur de la Navy. Et ils étaient basés à Guantanamo. Donc il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées qui ont essayé, en fait, des personnes qui avaient une expérience dans le renseignement, qui nous ont dit, par exemple, s'il faut embrasser sur les joues quelqu'un dont on sait qu'il a été mêlé au 11 septembre, il faut le faire, puisque c'est en fait par l'écoute, par la gentillesse et par le dialogue qu'on obtient des vrais renseignements. Par la violence, on obtient des faux aveux et des mauvaises informations. Donc ces personnes-là ont systématiquement été mises de côté. On n'a pas voulu leur donner accès aux prisonniers, ou plutôt aux détenus, puisqu'on ne les appelait pas prisonniers par définition.
Et que sont justement devenus ces prisonniers de Guantanamo ? Parce que Obama devait fermer Guantanamo, mais...
Oui. Il en reste aujourd'hui une petite soixantaine à Guantanamo. Obama, avant de partir, a décidé d'en libérer quelques-uns, un peu pour faire amende honorable, puisqu'en l'occurrence, il n'a pas réussi à fermer Guantanamo. Il a préféré, d'ailleurs, ne pas poursuivre les responsables de l'administration Bush. Il a préféré regarder en avant, je cite, et non pas regarder en arrière. Donc aujourd'hui, il y a 60 personnes qui sont à Guantanamo, 10 qui subissent en ce moment des procès pour actes de terrorisme. Je suis désolée si ce n'est pas le bon terme. Et les autres sont dans une situation terrible où ils sont innocents. Aucun pays ne veut les recevoir. Et ils ne peuvent pas être relâchés puisqu'ils ont avoué des petites choses sous la torture. Donc ils ne peuvent pas être traduits en justice puisque leurs aveux ne sont pas valables puisqu'ils ont été obtenus par la torture. Ils sont dans un no man's land. En ce moment, à Guantanamo, se construit une maison de retraite pour ces personnes qui resteront sans doute pour toujours à Cuba.
Et les responsables de la torture, enfin des gens comme John Rizzo, enfin alors lui, je sais pas, il est peut-être à la retraite, mais les gens sont sinon en poste. Voilà.
Tout le monde va très bien. Donc John Rizzo est à la retraite. Il a une très jolie maison dans la banlieue de Washington. Les avocats de la CIA, l'un est professeur de droit à Berkeley, l'autre est juge dans la région de Chicago. Ils ne seront jamais poursuivis grâce à Obama, qui a fait en sorte qu'ils ne soient jamais poursuivis. Donc voilà, en l'occurrence, la plupart des personnes se sont très bien.
Et enfin, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, mais typiquement, enseignant à Berkeley, c'est un campus qui est parmi les plus politisés, enfin en tout cas c'est l'image qu'on en a des États-Unis. Tu sais s'il y a eu des mobilisations par exemple contre ce genre de nomination ou...
Non, et en particulier parce que, je ne sais pas vraiment, mais en fait il y a une amnésie partielle. Les Américains ont envie d'oublier cette période-là puisque puisque c'est honteux. Et donc les gens n'ont plus trop envie de parler de Guantanamo, d'Abu Ghraib. Et les gens comme Gwendolyn Rice peuvent aujourd'hui très bien être encore... Elle est professeure aussi dans une grande université américaine. Voilà, les Américains ont envie d'oublier, de passer à autre chose.
Et oui, ce soir, aux Oreilles Loin du Front, on parle du projet Zéro Impunity. On a en plateau Leïla Mignano, qui a travaillé, entre autres, sur la Centrafrique, mais je crois aussi que tu as travaillé sur la Syrie, dont on va parler tout à l'heure. On a Anne-Laure Pinault, qui nous racontait les tortures à Guantanamo et à Abu Ghraib. Et puis, on va parler tout à l'heure avec Cécile de la Syrie. Ouais, c'était les punks de NoFX qui chantaient American Heroism, puisque ce soir nous parlons de l'impunité et nous parlons de l'impunité dans les violences sexuelles, dans les conflits armés. Donc effectivement, ce soir c'est un peu haut les cœurs, aux oreilles loin du front. Et alors là, on va aller du côté de la Syrie. Alors quand on parle justement d'erreurs américaines, ou en tout cas d'erreurs sur la gestion internationale d'un conflit, la Syrie c'est quand même... ça fait quoi ? Ça fait 6 ans qu'ils sont en guerre aussi ?
Depuis mars 2011.
Depuis mars 2011, oui, donc à peu près 6 ans. Et donc toi, tu as enquêté sur les viols en Syrie.
Exactement, avec Leïla Mignano qui parlait un peu plus tôt. On a donc coécrit cette enquête sur le viol des enfants en fait en Syrie, sur comment le viol est utilisé par le régime de Bachar al-Assad pour faire pression sur les opposants.
Et comment tu... Parce que toi, tu es allé sur le terrain, en fait, mais j'imagine que la Syrie, c'est impossible d'y aller en ce moment. Donc, où as-tu été récolter ces témoignages ?
Alors, effectivement, c'est un peu compliqué d'aller en Syrie en ce moment, et d'autant plus si on cherche ce genre de témoignages. Faut aussi faire attention à la sécurité des gens qui ont accepté de témoigner. Pour récolter, en tout cas, les témoignages de victimes, je suis partie en Jordanie. Où il y a beaucoup de réfugiés syriens. Et donc, c'est là-bas qu'on a rencontré plusieurs anciens détenus qui ont pu témoigner. On a aussi rencontré quelques anciens détenus en France, puisqu'il y a des réfugiés en France. Mais la majeure partie des témoignages ont effectivement été récoltés là-bas, en Jordanie.
Et comment tu as eu accès aux réfugiés ? Enfin, tu avais pris des contacts avant d'aller en Jordanie. Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, pour accéder aux témoignages, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec des fixeurs. En Jordanie, en Turquie, on a travaillé avec des fixeurs. Donc je suis partie avec un collègue qui est syrien, donc qui lui avait déjà un carnet d'adresses assez rempli et à qui, qui a travaillé avec nous sur le sujet, à qui on a dit voilà, on recherche des témoignages de victimes et on a. En commençant, en fait, quand on est parti, on savait que le sujet était sur celui du viol des enfants, mais voilà, on a rencontré tout type de victimes, des hommes, des femmes, enfin qui étaient adultes, parce que c'est aussi des gens qui ont été en prison, qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, donc qui pouvaient ensuite nous mener à d'autres histoires.
Et vous avez sollicité des ONG ou pas du tout ?
Alors on a beaucoup travaillé effectivement à partir du travail des ONG et aussi de l'ONU, puisqu'il y a une commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie qui s'est lancée dès 2011, qui d'ailleurs dès 2011 parle de crimes contre l'humanité commis par le régime de Bachar al-Assad. Donc on a beaucoup lu, on s'est beaucoup documenté, et effectivement ce qui est apparu, c'est qu'il y avait très très peu d'estimations. Alors à chaque fois dans les rapports, que ce soit Save the Children par exemple, qui est une organisation internationale basée en Angleterre qui travaille sur les enfants en conflit, ou Human Rights Watch ou Amnesty, tout le monde a travaillé énormément sur la Syrie, et il y avait des bribes de témoignages d'un enfant de 12 ans, voilà, il lui arrivait ça dans la prison, on nous a raconté ces histoires, où effectivement on sait que le viol fait partie parmi tout un panel de raisons qui font que les Syriens quittent leur pays. Donc il y avait un travail qui faisait, voilà, on s'est dit effectivement il y a quelque chose à creuser, il faut parler de ça. Donc on a appelé pas mal de gens dans les ONG qui tous ont plus ou moins répondu, mais avec ce qu'ils avaient, effectivement, il fallait creuser en fait.
Et alors, ce qui est assez, je ne sais pas si c'est étonnant, mais c'est que les enfants qui sont violés sont autant des garçons que des petites filles.
Effectivement, il y a une humanitaire qui nous en a parlé, qui, elle, justement, travaille très régulièrement sur la problématique du viol des enfants en zone de conflit, et qui nous disait que c'était la première fois qu'elle voyait que les filles comme les garçons étaient visées. Elle nous disait que la plupart du temps dans les conflits, quand on parle de viol sur mineurs, c'est souvent des jeunes filles, des adolescentes. Et là, elle me disait, c'est tous les âges, et c'est des filles comme des garçons. Et c'est ce qu'il avait, entre guillemets, surprise. Et il y a des différences plus ou moins selon les lieux. Par exemple, les viols se déroulent en détention, mais aussi lors des raids des milices du régime dans certains quartiers. Et donc c'est pas les mêmes personnes qui sont violées au même moment. Dans les raids, on s'attaque plus aux jeunes filles. En détention, effectivement, ce sera plus aussi des jeunes manifestants qui vont être détenus au même titre que les adultes, et donc qui vont subir des violences sexuelles.
Et c'est une volonté du régime, en fait, c'est une arme finalement, ce viol.
Alors c'est ce qui est apparu au fil de l'enquête, au fil des témoignages qu'on a pu récolter. On s'est rendu compte que c'était pas un hasard, en fait, que ça tombait pas, ça n'arrivait pas comme ça. Ça arrive tout le temps, enfin très très régulièrement dans les raids. Ça arrive en détention. En plus, en détention, c'est ce qu'explique un ancien directeur de la prison d'Alep, que dès le début de la révolution, on met fin à la séparation mineur-majeur dans les cellules, qu'on arrête aussi bien les manifestants, peu importe s'ils ont 35 ans que s'ils en ont 15, et qu'on leur fait subir les mêmes violences qu'aux adultes. Donc, en tout cas, c'est pas écrit noir sur blanc violer les enfants, mais en tout cas le régime sait que ça se passe, tout est organisé pour que ça puisse se produire, les gens qui sont au pouvoir savent que ça peut se produire, voilà.
Et donc ça, ce témoignage, c'est celui de Bassam
Alaloulou.
Et comment vous avez fait pour le rencontrer, parce que j'imagine que c'est toi qui l'as rencontré, donc elle est là. Parce que c'était lui diriger une prison, c'était à l'époque pour le gouvernement quand même. C'était Exactement, un fonctionnaire de Bachar.
Oui, complètement. Alors en fait, j'ai déjà travaillé sur la Syrie, notamment l'année dernière avec Cécile, sur un livre, sur une contre-enquête sur la prise de Palmyre. Et c'est à cette occasion que j'avais rencontré plusieurs contacts à la frontière syro-turque. Et donc, du coup, c'était l'occasion. Donc on a eu une chance incroyable de pouvoir avoir accès à l'ancien directeur de la prison d'Alep et par ailleurs à un ancien des renseignements militaires qui ont pu nous apporter ce qu'on voulait vraiment dès le début, c'est-à-dire avoir les deux côtés. Du viol en Syrie, c'est-à-dire donner la parole aux victimes, mais aussi raconter que c'est un viol qui est organisé, qui est systémique, qui est voulu, et donc du coup qui est une véritable arme de guerre du régime contre les opposants. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a rencontré ces personnes-là et qui nous ont raconté qu'effectivement les ordres n'étaient pas directs. Par contre, ce qu'on leur faisait, c'est qu'on leur créait les conditions. On créait les conditions du viol des enfants. Et donc, du coup, c'est ce que nous ont raconté ces deux personnes.
Et cet homme, il était parti de la Syrie, en fait.
Oui. En fait, ils ont... Enfin, après, il y a les discours qu'ils veulent bien tenir et ce qui se passe réellement. Je pense qu'en gros, Pour les deux, ça craignait un peu pour eux, donc du coup, ils ont fait le choix de partir. Évidemment, le discours qu'ils me tiennent, c'est de dire on a rejoint la révolution, on a compris que ce qu'on avait fait, c'était mal, etc. Sauf que bon, ils sont quand même restés 2 ans après la révolution sur place, ils ont torturé allègrement, etc. Donc, c'est pas aussi clair que ça. Et par ailleurs, ils étaient eux-mêmes directeurs de la prison ou membres des renseignements militaires avant, c'est-à-dire avant la révolution. Donc ils avaient déjà eux-mêmes participé, comme on dit, mis les mains dans le cambouis. Et donc du coup, bon, leurs intentions, on a un peu du mal aussi à y croire. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand des militaires franchissent la frontière syro-turque, ils doivent présenter leur carte d'identité, et c'est une carte d'identité militaire. Donc du coup, ils se font systématiquement, pour les officiers, ramassés par les autorités turques, et donc du coup, enfermés dans ce camp. Où il y a 5000 officiers et leurs familles qui habitent toujours. Et donc, du coup, on a eu l'autorisation de les faire sortir du camp pour qu'ils puissent répondre aux interviews.
Donc, vous les avez rencontrés en Turquie ?
Exactement, à la frontière syro-turque. À la frontière syro-turque.
Alors, là, tous les témoignages que vous avez récoltés sont tous terribles et quand même très traumatisants. Alors que ce soit d'un côté Anne-Laure ou Leïla, comment vous avez fait un peu psychologiquement pour supporter ces témoignages ? Outre qu'après on parlera aussi des enfants qui ont été violés et comment ils vivent aujourd'hui. Hein, faut quand même...
Oui, non, c'est ça. C'est que effectivement, c'est dur pour nous, mais c'est encore plus dur, bien sûr, pour les victimes. Ce qui est l'avantage de ce projet, c'est qu'on a toujours été une équipe. On est 11 journalistes, 11 femmes. Certaines d'entre nous ont déjà travaillé sur des sujets très durs. Et donc, au retour de terrain, au retour après avoir pris ces témoignages-là en pleine face, hein, si je peux dire, on a débriefé, en fait. On en a parlé ensemble parce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention et il fallait en parler tout de suite, évacuer tout de suite. Et chacune, en plus, a pu apporter avec son expérience de dire « Moi, il m'est déjà arrivé ça, je te conseille de faire ça, moi, il m'est déjà arrivé ça, voilà. » Et il y avait aussi... c'est vraiment l'avantage d'avoir été un collectif là-dessus, d'avoir pu se soutenir sur tous ces témoignages un peu
et
difficiles.
Et je pense un collectif exclusivement féminin.
Oui, bien
aussi.
Sûr. Bien
je
sûr.
Pense que ça a compté énormément. Pour qui a travaillé déjà en zone de combat ou sur les violences sexuelles, c'est quelque chose qui, en général, quand on a mal, quand on a peur, quand on a été touché par un témoignage, c'est quelque chose dont on ne parle pas, en fait, puisqu'il faut... montrer que on est des grands reporters, on a peur, on a peur de rien, on n'a jamais mal. Et donc du coup, ça a été un souci quand même dès le départ de prendre en considération ce problème-là, ce qu'on appelle le syndrome du choc post-traumatique des reporters. Et donc du coup, il y a eu des discussions en particulier, notamment parce qu'on a été confronté à une situation qui a été extrêmement traumatisante. Puisque une stagiaire a été, contre toute attente, mise au contact avec une victime de violences sexuelles en Ukraine, qui ensuite a menacé de se suicider, qui lui a clairement envoyé un email en lui disant « Cette interview m'a permis de voir la réalité en face, puisqu'elle n'en avait jamais parlé avant. Maintenant, je vais me suicider. » Donc du coup, c'est des expériences qui peuvent être très, très traumatisantes où la responsabilité de notre travail est très importante. Donc du coup, il y a eu ce travail qui a été fait tout au long du ce qu'on a appelé le spotlight en référence au film, c'est-à-dire de l'enquête.
Et elle va bien, cette...
Oui,
cette...
Exactement. C'était voilà, Alex qui a la technique voulait quand même se renseigner sur...
Tout à fait. Donc cette femme qui a été violée en Ukraine par des troupiers russes est réfugiée aujourd'hui en Allemagne. Donc on a évidemment appelé les policiers allemands qui sont parvenus à la retrouver. Et donc du coup, elle va bien.
Et il y a un budget psy dans une enquête comme ça ?
Non, mais certaines d'entre nous ont eu la chance de faire le stage du syndrome du choc post-traumatique. Donc du coup, on a pu partager leurs expériences, puisque la particularité du Spotlight, c'est qu'il y a beaucoup de femmes reporters qui ont déjà travaillé en zone de conflit, qui ont déjà été amenées à faire ça et qui ont pu faire partager leurs expériences. Mais vraiment, la particularité dans un Spotlight féminin, c'est que personne ne roule des mécaniques, en fait. Ouais. Il y a une solidarité.
Il y a un côté groupe de conscience féministe qui ressort. Quoi.
Exactement.
Et il y a beaucoup de soutien aussi, parce que même au-delà de vouloir se dire « je suis plus forte que ça, je passe au travers de ça », il y a aussi ce truc où on ne s'en rend pas compte. Et les gens autour de vous se rendent compte que ça ne va pas forcément et tout ça. Et donc, cette confiance-là, effectivement, qu'il y avait entre nous, femmes reporters, a énormément joué et a fait qu'on s'en est toutes sorties.
Très bien.
Et par rapport aux victimes, aux survivantes que vous avez interrogées, vous aviez aussi soit des contacts de psy, soit, je ne sais pas, à leur conseiller, ou vous leur avez tenu un discours sur voilà, le fait de témoigner, ça pouvait, notamment si c'était la première fois, ça pouvait être vraiment traumatisant. Comment vous avez géré cet aspect-là ?
Alors en fait, c'est une vraie question, comment interviewer les victimes de violences sexuelles ? C'est une question que nous, en tant que journalistes, on ne se pose pas au quotidien, mais que là, en particulier, on s'est posée. C'est-à-dire que dès le début, on a fait des formations avec celles qui connaissent un peu le sujet pour donner des techniques, en fait. Je ne sais pas, il y a des techniques basiques qui sont, par exemple, ne jamais qualifier soi-même le mot de viol, par exemple, laisser la personne en face le qualifier elle-même. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous reviennent aussi, mais
avoir les contacts d'une association d'avocats ou une association de victimes ou de psychologues avec nous pour dans le cas où la victime a besoin de ces informations.
Ce qu'on appelle passer le relais.
Du coup, c'est par exemple une information que vous laissiez systématiquement ou seulement à la demande de la personne interviewée ?
C'est à la demande. C'est à la demande. Parce que potentiellement, elle a peut-être elle-même déjà entamé une démarche en justice, elle-même démarché un psy ou pas du tout. Mais en tout cas, il faut avoir ça sur soi quand on interviewe une victime. Parce que sinon, c'est trop difficile pour soi et pour elle. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas. Enfin, notre job à nous, c'est celui de raconter ce qu'elle fait. Mais se dire, je pars, ensuite je me retourne pas, et peu importe ce qui lui arrive, c'est aussi difficile à gérer. C'est quelque chose qui peut vraiment laisser des traces dans une carrière de journaliste. Et donc, du coup, en général, ce qu'on fait, c'est ce qu'on passe le relais, c'est-à-dire qu'on donne, on met cette personne en contact avec des avocats et avec des psys, dont c'est le travail, ou des associations.
Et toi, en Syrie, ce qui est quand même assez terrible, c'est que c'est des enfants, en fait.
Ouais, c'est tout. En fait, je saurais pas dire, puisque de fait, un viol, c'est horrible, et que ça se passe pour une femme, un homme, un enfant. Mais effectivement, la question des enfants rendait encore plus difficile l'accès aux témoignages. Puisque bien sûr vous pouvez pas interroger un enfant sans l'autorisation de ses parents, et puis vous essayez aussi de le préserver au maximum, donc effectivement c'est une question qui s'est posée, et en même temps c'est aussi pour ça, j'ai eu des retours d'un contact dans une association humanitaire. Elle me disait, moi j'aurais voulu creuser ce sujet là et j'ai pas pu parce que trop compliqué, parce que très très lourd aussi à avancer. Et du coup, c'était aussi ça qui faisait la force de la démarche. Ça existe et il faut en parler, en fait.
Alors là, on parlait tout à l'heure des viols qui ont été organisés par le régime en Syrie de Bachar el-Assad, mais il se trouve qu'il n'y a pas que le côté viol organisé par le régime de Bachar el-Assad, comme Leïla raconté tout à l'heure avec le dirigeant de la prison d'Alep, c'est ça ? Il y a aussi les révolutionnaires, en fait, ou les groupes armés multiples et variés qui l'utilisent comme arme de guerre.
Alors, effectivement, on met un encadré à la fin de l'enquête pour préciser ce point. Il y a eu, bien sûr, des viols qui se sont déroulés aussi côté révolutionnaire. Et une victime, quelle qu'elle soit, de n'importe quel camp qu'elle soit, mérite qu'on écoute sa parole. Simplement, l'échelle et l'organisation est complètement différente. Ce qui vraiment distingue ce qui se passe pour le régime, c'est que c'est vraiment organisé. Toutes les conditions sont mises en place pour que ça se déroule. Les hautes autorités sont au courant. Et vraiment, il y a ce côté organisationnel et échelle de masse, vraiment échelle un peu systémique, qui compte. D'ailleurs, on cite l'ONU qui en parle, qui dit que, bien sûr, ça se passe, mais la dimension, l'échelle est quand même est sans commune mesure, bien sûr. Bon, cas à part de Daesh, bien sûr, que je compte, bien sûr. Enfin, je compte pas dans le. Je parle pas de Daesh là pour le coup. Je parle vraiment de l'ASL et du régime.
Peut-être pour terminer sur la Syrie, les enfants que tu as rencontrés, ils sont suivis après ?
Oui, la petite fille dont le témoignage, on débute l'enquête avec son témoignage, Nora, est suivie par une psychologue. Elle est suivie dans un centre pour orphelins puisque elle a été incarcérée pour que son père se rende. Son père s'est rendu, bien sûr, il n'est jamais revenu. Et donc elle a été violée en détention. Et donc elle est suivie là en Jordanie dans un centre pour orphelins. Donc elle a tout un accompagnement psychologique, bien sûr, depuis qu'elle y est, en fait.
Alors, vous pouvez lire cette enquête sur Mediapart et les autres enquêtes, les deux premières dont on a parlé, sont accessibles aussi sur votre site internet zeroimpunity.com. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, on parle du projet Zéro Impunity, donc Zéro Impunité, qui est un projet transmédia d'investigation et d'activisme contre l'impunité des violences. contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés. Et nous avons en plateau les journalistes Leïla Mignano, Anne-Laure Pinault et Cécile Andrzejewski.
Andrzejewski, c'est ça.
Donc, qui parlaient tout à l'heure de leurs enquêtes aux quatre coins du monde. Mais il se trouve que vous allez aussi dans... c'est là, nous sommes à la moitié, grosso modo, du projet, c'est ça?
Tout à fait. Reste encore 3 enquêtes à publier qui seront la prochaine, donc le 22 février, consacrée à l'ONU. Ensuite, nous aurons le 8 mars l'Ukraine, avec une sortie notamment qui va être organisée à Kiev. Et enfin, une enquête consacrée à la Cour pénale internationale. Voilà. Et ensuite, ça sera la marche virtuelle.
Donc toujours par des binômes de femmes qui ont été dans ces coins.
Exactement. Exclusivement, c'est en spotlight, un groupe d'enquêtrices exclusivement féminin.
Et alors, c'est quoi l'angle sur l'ONU, sur l'ONU et sur la CPI, la Cour pénale internationale?
Alors, c'est comment l'ONU, l'institution, a couvert les exactions des casques bleus en opération. Donc, c'est tous les mécanismes de couverture de cette organisation qui est censée défendre les droits humains et qui, malheureusement, quand il s'agit de balayer devant sa porte, n'est pas franchement au top. Et c'est un bas mot.
Ce qui est bien dans votre projet, c'est que là, on parlait journalisme, mais il y a aussi de l'activisme, en fait. C'est pas que raconter des histoires terribles d'hommes violeurs. Il y a quand même une action qui est à...
Exactement. Donc l'idée, c'est de se dire, on reste pas sur l'indignation provoquée par la lecture de ces enquêtes, mais nous, en tant qu'individus, on peut essayer de faire des choses à l'issue de cette lecture, signer par exemple cette pétition, transformer sa signature en avatar et marcher virtuellement contre l'impunité, contre son propre État quand on est américain, français, russe ou ukrainien, ou contre des organisations comme l'ONU ou la Cour pénale internationale qui couvrent clairement les exactions de leurs troupes.
Pour l'instant, à l'heure où on parle, il y a 270 000 personnes qui ont signé les deux premières pétitions pour l'armée française et pour, contre les exactions de l'opération Sangaris et contre la torture sexuelle aux États-Unis.
Il y a une pétition par, en gros, sujet.
Exactement. Et en tout, là, pour l'instant, on a 270 000 signatures et on ne s'attendait vraiment pas à un succès pareil.
Et vous êtes en lien avec des groupes activistes, justement, aux États-Unis ou en République centrafricaine ou en Ukraine ?
Non, très peu. On a été interviewés par des radios en Afrique. On est en lien, évidemment, avec des avocats, avec tous les contacts qu'on a pu prendre sur place, mais très peu avec des groupes activistes. C'est essentiellement Change.org qui a des mailing lists et qui renvoie.
Dans les médias plus larges, est-ce que vos enquêtes ont été reprises ? Est-ce que ça a fait un peu boule de neige ?
Tu voulais dire mainstream ?
Oui, c'est ça. J'essaie de trouver un...
Alors, en fait, on a été sur TV5. On a fait, évidemment, le live de Mediapart.
Sur l'enquête française.
Exactement. On a fait France Culture. Hier, il y a Marianne et Libé qui ont repris notre enquête. Sur la Syrie, pardon. Et il y a quelques médias. Après, parfois, l'actualité joue contre nous, soyons honnêtes. Là, on a Fillon.
C'est Pénélope, quoi.
Exactement. c'est Fillon, surtout. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué parce que la question du viol, et encore plus quand c'est du viol qui est commis un peu loin, c'est rarement la priorité, c'est rarement les headlines de l'actualité. C'est en général plutôt la dernière roue du carrosse. Donc du coup, même quand on a un projet comme ça sur lequel on s'est donné, et globalement avec un média qui a un sérieux derrière, d'investigation, c'est extrêmement difficile de faire le top de l'actualité. Mais merci de nous inviter, de nous donner cette possibilité, cette visibilité, parce que vraiment, on a besoin, quoi.
Et l'avantage aussi, c'est qu'on a des médias partenaires dans des langues étrangères. Et ça sert aussi à la reprise, pas forcément à la reprise, mais à l'international qu'on en parle, effectivement. Ce qui est important, ce qui nous importait pour l'enquête Syrie, c'est que ça traduit en arabe. Toutes les enquêtes sont traduites en italien, en allemand, enfin voilà. Et du coup, ça sert aussi, même si en France, effectivement, c'est pas forcément repris comme ça devrait l'être. On en parle quand même, en fait.
Vous avez eu, du coup, vous avez été... d'une certaine manière, plus satisfaite de certaines reprises où vous avez eu des retours aussi de ces traductions de lectrices ou lecteurs de l'enquête dans des langues étrangères.
Enfin, on a non eu français. Des menaces.
on a eu aussi des victimes. Par exemple, nous, dans l'enquête américaine, on a retrouvé des victimes à Paris il y a une semaine. Et c'est vrai que pour eux, de lire en fait noir et blanc l'enquête comme ça, c'est important aussi. Et donc... c'est peut-être beaucoup plus intéressant d'avoir ces retours-là, parfois, qu'une reprise.
Oui, gratifiant, enfin, aussi pour votre travail, j'imagine.
Oui.
Et sur les menaces, du coup, c'est...
Ben nous, par exemple, on a reçu la menace d'un soldat américain qui a écrit à nos patrons, donc au producteur de Haban, en disant « Vous salissez le drapeau, si vous continuez comme ça... » Je ne sais plus comment il termine. Si vous continuez comme ça, on ne vous laissera pas faire.
Il y en a eu plusieurs. Il y a eu toute une série d'emails sur de pro-militaristes américains qui étaient là. Il y a aussi l'ONU qui est particulièrement touchy et sensible par rapport à ce qu'on va sortir, alors qu'on ne l'a même pas encore sorti. Ils ne sont vraiment pas contents qu'on parle de ça.
Il y a un petit souci en plus à l'ONU. Il n'y a pas un des hauts fonctionnaires qui a démissionné récemment ou l'an dernier sur ces questions.
Ah, tout à fait, effectivement. Il y a eu un lanceur d'alerte qui a failli, enfin, qui a été écarté et ensuite qui est parti de lui-même, mais pour avoir osé dénoncer.
Alors, vous êtes toujours sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel et on parle de zéro impunité. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous dis que bon, pour agir, parce que c'est quand même tous ces témoignages sont assez rudes, pour agir d'un point de vue, je sais pas, de nos auditeurs, comment ils peuvent faire pour vous soutenir ?
Signer la pétition sur change.org. Donc, vous pouvez aller voir, avoir tous les liens sur Zéro Impunity ou sur Mediapart. Partager sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est un projet viral. Donc, partagez, faites lire au maximum. Et franchement, vous mettrez une bonne pierre à l'édifice, quoi.
Et juste, on n'en a pas parlé, mais en termes de reconnaissance, vous avez, enfin, le projet, en tout cas, a obtenu un prix fin janvier, un festival de médias trans.
Au FIPA. Le FIPA d'or qui est
c'est pas que trans, hein, le FIPA, c'est le plus gros festival à Biarritz.
Oui,
c'est,
ce n'est plus du nom, mais...
Exactement, donc on a eu le...
Festival
le...
international de Exactement. Production audiovisuelle.
Donc ça, c'est quand même très très chouette que notre projet soit passé, y compris devant les journalistes du New York Times, des gens qui ont eu le Pulitzer, etc., et que notre petit projet soit passé devant et récolté le FIPA d'or, quoi. On a bu toute la soirée.
Oui, bien sûr, on a fait des ça.
Ah, la gueuse à Biarritz.
Bah, nous, on n'était pas à Biarritz. Mais
nous, on était à Châtelet, mais...
mais on a bu quand même. On était ensemble et on était contentes.
Et quelles sont les prochaines échéances pour votre projet? Parce que là, il y a quelques articles qui vont sortir et après, il va y avoir le film. C'est...
Et le livre en septembre.
Donc, l'idée, donc là, c'est trois prochaines enquêtes. Ensuite, manifestation virtuelle. Ensuite, on va projeter donc, les images de cette manifestation virtuelle sur différents immeubles symboliques à travers le monde, en Europe, dans les Caraïbes, en Afrique. Donc, qui va être projeté par des hackers.
Et à Paris, par exemple, il y aura une projection aussi, mais que vous ne pouvez pas dévoiler pour l'instant, c'est ça ?
Exactement. C'est à chaque fois sur des immeubles symboliques destinés à attirer l'attention et des riches et des puissants. Et ensuite, ensuite, il y aura le film. Donc du coup, le film d'animation qui va sortir à la rentrée. Et le livre...
C'est-à-dire la rentrée, parce que bon...
À la rentrée scolaire. En septembre. Donc du coup, on espère que ça marchera bien. Et puis ensuite, il y a le livre donc, qui s'appelle Impunité Zéro, donc Zéro Impunity en français. Et donc chez l'éditeur Autrement.
Et qui reprend des versions longues, notamment de
augmentées de nos enquêtes.
Sachant que par exemple sur votre site internet zeroimpunity.com, il y a des dessins. C'est quand même, c'est le côté transmédia fait que c'est quand même un projet global.
Exactement. Les illustrations justement de Damien Roudot, d'ailleurs,
Qui sont exceptionnelles. On est très très contente de ce qu'il a fait.
Et qui appuie, comme tu disais un peu plus tôt, qui appuie le propos et qui rendent, c'est plus digérable les horreurs de nos témoignages.
En tout cas, toutes les trois, merci beaucoup d'être passées sur ce plateau. On espère vous suivre dans vos projets suivants. Je crois que toi, tu as un bouquin, non ?
Je viens d'en sortir un. Je pense que je vais mettre la pédale douce. Et en revanche, il y a Zéro Impunité qui va sortir, mais c'est coordonné par Anne-Laure Pinault et Justine Brabant.
D'accord.
Voilà.
Donc, il y aura sûrement l'occasion de les re-recevoir sur ce plateau.
Avec plaisir. Je suis sûre qu'elles seront contentes.
Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez en savoir plus sur le projet Zéro Impunité sur le site internet zeroimpunity.com. Et puis, vous pouvez suivre les prochaines sorties d'articles. Donc, il y aura l'Ukraine...
L'ONU à la fin du mois, 22 février. Ensuite, l'Ukraine le 8 mars et derrière la Cour pénale internationale.
Et donc, c'est sur Mediapart.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.